LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
C'est vrai que l'hémophilie, elle est souvent appelée la maladie royale au regard de sa diffusion au sein des différentes familles royales de l'Europe.
Le sang de la veine, Marie Chartron, Anne Fleury. Troisième épisode, hériter, transmettre.
C'est une maladie du sang, une maladie de la coagulation, ce qui fait que les patients qui en sont atteints ne vont pas bien coaguler et vont donc avoir des pathologies liées au saignement trop important. Et cette pathologie a la particularité d'être transmise par les femmes. Et seuls les garçons sont atteints.
Jean-Baptiste Thibert.
En fait, tout remonterait à la reine Victoria en Angleterre, qui a été identifiée comme porteuse du gène muté sur un de ses chromosomes X. Et cette reine Victoria a eu 12 enfants, dont 9 garçons qui étaient atteints d'hémophilie et qui sont décédés assez jeunes, parce qu'il n'y avait pas de traitement à l'époque. Et elle a eu également 2 filles qui étaient, elles, vectrices de l'hémophilie. Et ensuite, donc, à partir de la reine Victoria et de ses enfants, on a eu une dissémination de la maladie dans différentes familles royales européennes, et notamment à la cour du roi d'Espagne, en Allemagne et en Russie. Les historiens pensent que l'hémophilie du fils unique de Nicolas II de Russie, hein, donc son fils qui était Alexei Nikolaevitch, était atteint de l'hémophilie et que ses parents ont fait appel à un guérisseur renommé de l'époque qui était Raspoutine. Et l'histoire dit que ce guérisseur, Raspoutine, est devenu un confident de l'épouse de Nicolas II de Russie et qu'il aurait eu une influence non négligeable sur l'émergence de la révolution bolchevique et de l'effondrement de la monarchie russe.
Cette malédiction transmise par les femmes, qui aurait contribué au délitement des monarchies et des empires, pose une question, celle des liens du sang. Qu'est-ce que l'hérédité, l'altérité, l'identité? Que comprend-on de la transmission? Et comment s'est-on longtemps représenté le rôle du sang pendant la grossesse? L'historienne Emmanuelle Berthiaud s'est penchée sur l'histoire des femmes, du corps et de la médecine au XVIIIe et XIXe siècle.
Alors, ce qui est très particulier et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pendant longtemps, on avait finalement une assez grande proximité entre la mère et l'enfant. C'est finalement relativement tard qu'on a vraiment individualisé l'enfant, et ça passe aussi par la question du sang. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez particulier, cette idée que c'est finalement une espèce d'organisme unique. La mère, c'est à la fois un écran pour son enfant, elle le protège pendant la grossesse, mais c'est aussi finalement un corps un peu transparent, une espèce de passoire où finalement tout ce qui vient d'elle peut aller à l'enfant, et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses de l'enfant qui peuvent passer à la mère. Et donc ça, c'est vraiment une représentation qui est importante pour comprendre beaucoup de croyances qui implique aussi la question du sang, notamment je pense à quelqu'un qui est Malebranche, dès le XVIIe siècle, mais qui est repris encore au XVIIIe siècle, qui considère que tout passe entre la mère et l'enfant, que ce que la mère voit, ce que la mère ressent, ça va s'imprimer et passer directement en fait à l'enfant, et l'enfant peut en être marqué, en expliquer par ce biais-là des malformations, des monstruosités. On considère qu'une femme qui assiste par exemple à une exécution capitale, la mère va s'en ressentir. On a un enfant qui est né avec toutes les articulations brisées, et bah oui, ah, c'est forcément qu'elle a regardé une exécution. Donc voilà, une femme aussi qui peut croiser un animal sauvage dans la forêt, elle va donner naissance à un enfant poilu, ou alors le cas le plus classique aussi, une femme qui a une envie de fraises ou de vin, ou dont l'enfant va retrouver une tache. Hein, voilà, c'est aussi ce que la mère voit, mais ce que la mère ressent, et qui peut se traduire justement effectivement par voilà, des particularités physiques, mais aussi morales, psychologiques. Donc là, il y a un lien extrêmement étroit entre la mère et l'enfant, qui va être finalement discuté par les médecins quand même. À la fin du XVIIIe siècle, les médecins commencent à ne plus trop y croire à cette histoire d'imagination de la femme enceinte, alors que dans les populations, c'est des croyances qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et finalement, ça n'est que récemment que les hormones, la découverte des hormones montre qu'en effet, certaines émotions maternelles, et en particulier les hormones du stress, vont avoir un effet sur l'enfant. Et effectivement, parfois, voilà, des conséquences réelles. Donc, cette idée quand même que le sang ou le corps de la mère passe des choses à l'enfant, ça c'est quand même intéressant.
«
Je m'appelle Mélinda Dorquenou. Je suis drépanocytaire SS. J'ai aujourd'hui 32 ans, il me semble. Oui, 32 ans. Et je suis la maman d'un joli petit bébé de 8 mois, malgré la drépanocytose. J'ai fait ma première crise à l'âge de 9 mois. Donc bien évidemment, j'en ai pas de souvenir, mais c'est ma mère qui me l'a raconté. Ils m'ont emmenée donc aux urgences, à l'hôpital, à Robert Debré, il me semble, parce qu'on habitait déjà en région parisienne. À l'époque, donc je suis née en 90, ils ont pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Donc ensuite, ils m'ont transférée au service des maladies tropicales. Et là, forcément, ils ont fait une batterie d'examens et ils ont décelé donc la drépanocytose. Et c'est d'ailleurs la première fois que mes parents m'ont entendu parler eux-mêmes. Malgré qu'ils soient tous deux originaires d'Afrique, qu'ils y soient nés, qu'ils y aient grandi, ils en entendent parler pour la première fois, donc ils sont pas du tout au courant. Donc forcément, on leur fait des tests à eux pour pouvoir déceler quelle forme de drépanocytose eux ils peuvent avoir. Donc il s'avère que eux ne sont pas malades, mais porteurs du gène. Donc chacun a le gène S de la maladie. Et moi, malheureusement, ben, j'ai pris les deux gènes S de chacun et je suis donc drépanocytaire SS. Complètement, totalement malade. Donc c'est une maladie génétique qui atteint donc nos globules rouges. Par exemple, une personne saine qui n'est pas malade a des globules rouges, elles, qui sont bien formés, bien ronds, bien lisses. Et à l'inverse, nous, les drépanocytaires, on a des petits globules rouges un peu en forme de croissant, avec des picots qui sont pas forcément très lisses et qui ont du coup plus de mal à passer parfaitement dans nos vaisseaux sanguins.
Vous avez déjà vu vos globules rouges ?
Jamais, mais j'avais une petite vidéo à l'époque quand j'étais petite. C'était un petit dessin animé où ils avaient imagé justement à peu près notre maladie, nos globules rouges, les globules rouges sains à côté. Et je me rappelle que souvent quand j'étais jeune et que je faisais des crises et que j'avais des douleurs, je m'imaginais un peu comme dans le dessin animé, je me disais « Ah là, dans ce coin-là, ça fait mal, il doit y avoir un bouchon ». Et je revisualisais le moment où dans le dessin animé, on voyait les globules rouges tous empaquetés au même endroit et que ça créait un bouchon. Je me rappelle quand j'étais petite, je me faisais souvent ça dans ma tête. Donc les crises, c'est ce qu'on appelle dans le milieu médical des crises vaso-occlusives. Ça se traduit par des douleurs assez intenses dans tout le corps, on va dire. Ça peut commencer, je sais pas, dans le dos, dans les bras, et puis ça va se diffuser dans tout le corps. Ça peut m'handicaper pendant une heure ou plus, ou carrément toute une journée où je vais pas pouvoir bouger, je vais être douloureuse, je vais rien pouvoir faire. Du coup, je suis obligée d'anticiper. Est-ce que si je sors habillée comme ça, ça va aller? Est-ce que aujourd'hui je fais telle soirée avec mes copines, je vais pas être trop fatiguée demain pour le travail, ou maintenant pour mon fils, enfin... C'est perpétuellement une réflexion constante à savoir comment faire les bonnes choses pour éviter d'être trop mal après et pouvoir vivre une vie normale. Quand j'étais jeune, je forçais quand même parce que j'avais beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter. Sauf que, bah, à contrario, après, je me retrouvais soit malade dans mon lit, soit hospitalisée. Donc, ça a eu du mal à rentrer, mais ça a fini par rentrer. J'arrive mieux à l'accepter et à faire la part des choses et à savoir m'arrêter quand je dois m'arrêter.
Vous faisiez des séjours en hôpital quand vous étiez petite ?
Oui.
Et quels sont les traitements à l'hôpital ?
La plupart du temps, pendant une hospitalisation, c'est perfusion, pour nous hydrater un peu et passer certains médicaments, je pense. Et aussi souvent, ça dépend des personnes, mais au besoin, des transfusions des fois.
Vous en avez eu beaucoup, des transfusions ?
Alors, beaucoup non. Les dernières en date, c'était quand j'étais enceinte, parce que du coup, je viens d'avoir un petit bébé qui a 8 mois. Mes médecins se sont penchés sur mon cas, du coup, pour savoir si il fallait que j'aie des transfusions tous les mois pour m'aider à tenir cette grossesse. Au vu de mon cas, c'était pas nécessaire. Donc au début, on a fait 100. Sauf que à partir de mon 6-7e mois, j'ai commencé à avoir un peu plus de crises plus poussées. J'ai dû passer deux fois aux urgences en 2 semaines à peu près. Et du coup, mes deux médecins m'ont appelé pour me dire « Écoutez, vous avez fait 2 passages à la suite. Je pense qu'on va voir pour mettre en place des programmes de transfusion, au moins pour vous redonner un peu de force jusqu'à la fin, parce que je pense que là, votre corps, il commence à fatiguer. » Et donc, effectivement, j'ai eu 2 transfusions sur 2 mois, un peu avant le déclenchement de mon accouchement.
ce qui a longtemps perduré comme croyance de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, c'est que la mère a un rôle essentiel en matière de sang vis-à-vis de son enfant, c'est qu'on est persuadé que c'est le sang menstruel de la mère, qui ne s'écoule pas pendant la grossesse, qui nourrit l'enfant. Avec toujours cette très grande continuité quand même entre la vie intra-utérine et l'après. Hein, le rôle nourricier, c'est quelque chose qui finalement, avant et après la grossesse, est censé être le rôle principal de la mère. Et donc ça, ça va être... ce sont des connaissances qui vont petit à petit être transformées parce qu'on va se rendre compte justement notamment de la fonction du placenta, où on se rend compte que là, il y a peut-être une autre manière pour la mère de nourrir son fœtus. Mais encore, jusque tard, au XIXe siècle, on méconnaît la fonction du placenta. Et certains pensent particulièrement que... notamment les premiers mois, il n'est pas certain que l'enfant se nourrisse par le biais du placenta ou du cordon, mais que peut-être il absorbe par la peau des choses, ou certains s'imaginent que le placenta transpire un espèce de suc laiteux, et qu'en fait, en réalité, ça ne passe pas par le sang, mais ça peut passer par, finalement, quelque chose d'un peu lacté, quoi, comme si l'enfant, déjà in utero, il avait besoin de sucer quelque chose, ou de... voilà. Donc c'est finalement cette idée qu'il y a quand même toutes les substances nutritives et surtout aussi tout ce qui est l'oxygène, parce que ça aussi la fonction du placenta qui est aussi respiratoire, l'air passe aussi par le sang. Ça c'est des connaissances qui datent vraiment du 19e siècle, c'est relativement récent.
On imaginait auparavant que l'enfant respirait à l'intérieur de la mère.
On a certains, alors ça, on ne sait pas très bien justement par où il respire, mais certains pensent que notamment ça passe par le vagin en fait, hein, qu'il y a de l'air qui respire, et que certains préconisent justement si une mère venait à mourir brutalement, il faudrait laisser à l'enfant la possibilité de respirer. Donc on imagine d'introduire des choses. Certains, enfin oui, on ne sait pas très bien, pense qu'il peut respirer aussi par la peau et pas forcément par le biais du cordon et par le biais du sang.
Si je devais écouter les médecins. Ce serait limite, je dois rencontrer quelqu'un et avant d'entamer toute relation, limite tu proposais d'aller faire une prise de sang et qu'on puisse savoir ce qu'il en est avant que je puisse savoir si je peux faire ma vie avec cette personne ou pas. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas si facile. Et c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai du mal pour l'instant déjà, ne serait-ce qu'à exprimer ma maladie tout de suite. Donc il est vrai que là, même par rapport à son père, il a toujours su que j'étais malade. Mais moi, j'ai jamais réussi à vraiment lui dire « s'il te plaît, va faire une prise de sang, histoire que je sache ce qu'il en est.
» Et vous avez décidé d'avoir un enfant? Ou
Non, je vous avoue que mon fils est un petit peu une belle surprise au final, mais non, je vous avoue qu'au début c'était pas prévu, parce que si vraiment ça avait été prévu, effectivement à ce moment-là, on en aurait dû se quitter et je lui aurais dit ok, par contre faut que tu fasses une prise de sang et qu'on sache sur quel pied danser avant tout. Mais du coup, mon bébé a été une surprise qui n'a pas été assimilée de la meilleure des manières pour tout le monde. Ce qui fait que ça a compliqué un peu les relations entre lui et moi. Et c'est aussi pour ça que malheureusement, j'ai pas pu lui demander, même quand j'étais enceinte, d'aller faire une prise de sang, parce que la relation était déjà un petit peu compliquée entre nous. Enfin, pendant la grossesse, on a la possibilité de faire une amniosynthèse pour pouvoir déceler tout de suite si le bébé a la drépanocytose ou pas et pouvoir agir en fonction, en situation de chacun. Moi, je leur avais exprimé que dans tous les cas, même s'il était malade, j'aurais gardé mon bébé parce que moi-même, je suis malade et je vis quand même à peu près très bien. Donc on s'est dit du coup qu'on allait attendre donc la naissance, parce que maintenant à la naissance, Dieu merci, ils ont mis en place un système pour faire une prise de sang pour déceler la drépanocytose chez chaque bébé. Avant c'était uniquement chez les enfants racisés, maintenant depuis quelques mois c'est chez tous les enfants. Et ce qui est très bien d'ailleurs, parce que c'est pas seulement les enfants racisés qui ont la drépanocytose. Et du coup, c'est vrai que donc pendant toute la grossesse, j'attendais que ça en fait. Parce que j'avais peur quand même de me dire, s'il est malade, c'est de ma faute. Enfin, c'est pas vraiment de ma faute, parce que moi non plus, c'est pas de ma faute. Mais je sais que si il avait été malade, ça aurait été aussi en partie de ma faute, parce que moi-même, je suis porteur de cette maladie. Et que, étant donné que c'est génétique, c'est moi qui lui la donne. Mais par chance, il est juste porteur du gène, parce que forcément, moi, je suis malade, donc il a juste pris un gène de mon côté et le côté sain de chez son père. Et du coup, ça, c'est déjà une grande délivrance pour moi. J'avoue que quand j'ai reçu les résultats, j'ai arraché l'enveloppe, je l'ai lu, je l'ai relu et j'en ai pleuré. Et franchement, c'était vraiment une délivrance, parce que je pense que pendant toute la grossesse, c'était vraiment un gros stress que j'avais quand même.
Alors, Alors, ce que je vois surtout, moi, peut-être comme évolution un peu sur le long terme, sur ce que la mère transmet à son enfant, c'est que pendant très longtemps, justement, je pense que le sang n'occupe qu'une petite part dans la transmission. Ça passe par beaucoup d'autres choses, la transmission. Quelque chose, par exemple, dont on était persuadé pendant longtemps, c'est que si les enfants ressemblaient à leurs parents, c'est pas tant parce que, évidemment, on n'avait pas la connaissance des gènes ou que ça passait pas par le sang, c'est que ça passait par la vue. Une femme, en gros, qui regarde beaucoup son mari, eh bien, si l'enfant ressemble à son mari, c'est parce qu'elle l'a regardé. Si l'enfant ressemble au voisin, c'est qu'elle a regardé le voisin, en fait. C'est pas forcément qu'il y a eu un péché quelque part. Ça faisait partie des croyances. Le sang n'est pas forcément beaucoup évoqué dans les traités médicaux comme étant l'élément par lequel ça passe. C'est finalement relativement tardif, essentiellement au 19e siècle, avec un exemple que... moi que j'avais rencontré, qui est par exemple celui sur la syphilis, voilà. Où là, effectivement, c'est une maladie alors qui est ancienne, hein, qui est connue depuis la Renaissance, mais la nouveauté dans la deuxième moitié, surtout la fin du 19e siècle, c'est l'idée qu'il y a une hérédité syphilitique, qu'il y a une contagiosité de la maladie qui passe par le sang. On ne croit plus justement à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, que le placenta serve de filtre. On pense au contraire que la mère peut contaminer son fœtus. Mais là où ça va très loin, c'est que non seulement on croit que la mère peut communiquer cette syphilis à son fœtus, mais on pense aussi, et c'est vraiment un pur fantasme en fait en réalité, mais qui s'est beaucoup développé en France, notamment avec un médecin qui s'appelle Alfred Fournier, il pense lui que le sang du fœtus peut transmettre à la mère une hérédité d'origine paternelle. L'enfant lui-même est porteur par le biais de la graine du père de la syphilis et peut aussi par son propre sang infecter sa mère. Donc là, il y a une espèce d'angoisse très forte chez les médecins de cette fin du 19e siècle sur cette hérédité à longue portée, parce qu'en fait, on a peur que ça gâte finalement la race, quoi. Il y a vraiment un fantasme à la fin du 19e siècle de dégénérescence de la race, une angoisse des bourgeois sur le fait que la prostitution, le fait de fréquenter les femmes du peuple, qu'elles soient la bonne du 6e étage ou les femmes des boulevards, pourraient faire rentrer, voilà, des maladies qui vont affecter, alors que l'épouse peut être parfaitement pure finalement et innocente, mais pourrait, voilà. Donc, ça déresponsabilise d'une certaine manière la mère, cet aspect-là, parce que le père, par le biais du fœtus, peut aussi infecter la femme.
L'historienne Nathalie Sage-Prancher travaille sur l'histoire de la naissance et sur la formation des sages-femmes. Elle explore la transmission de maladies de parents à enfants en se penchant sur un exemple bien particulier, celui de la maladie hémolytique du nouveau-né.
La maladie hémolytique du nouveau-né, elle découle d'une incompatibilité de groupe sanguin entre la mère et son fœtus, le fœtus ayant hérité du groupe sanguin du père. La mère doit être rhésus négative, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas le groupe sanguin rhésus, tandis que le fœtus, lui, porte le groupe sanguin rhésus, il est rhésus positif par héritage paternel. Si le sang de la mère et du fœtus entre en contact, le sang de la mère peut réagir à ce qu'on appelle un antigène, donc ce groupe sanguin rhésus présent chez le fœtus, et son sang va réagir en produisant des anticorps qui vont se défendre contre cet élément qui lui apparaît comme étranger. Or, en attaquant l'antigène, on attaque les cellules, et donc on a un phénomène de destruction des cellules sanguines du fœtus. Dès ma petite enfance, j'ai entendu ces récits de ces enfants qui, dans les familles, naissaient et étaient atteints de cette incompatibilité et que ça rendait malade et qui, parfois, pour certains, avaient des séquelles neurologiques très importantes à long terme. Mes parents, en fait, étaient incompatibles au point de vue du rhésus. Donc, j'ai entendu dire à ma mère, dès ma plus petite enfance, « Toi, tu étais notre premier enfant, tu serais passé au travers, mais si nous avions eu un deuxième enfant, il aurait pu risquer d'être malade, et c'est pour ça que j'ai eu une piqûre. » Et ça, j'en ai des souvenirs dès 7, 8, 9 ans, puisque l'intérêt pour les questions médicales était assez précoce dans la famille. Donc, je me suis dit que cette maladie qui était potentiellement encore présente, puisque les incompatibilités ne disparaissent pas, même si elle était sous contrôle, était quelque chose qui n'avait pas été particulièrement étudié, et je me suis penchée sur le moment où on avait commencé à la comprendre. Et à ma grande surprise, cette maladie, entre guillemets, n'existe pas vraiment avant le début du XXe siècle. Elle était invisible parce qu'il y avait un tel taux de mortalité infantile jusqu'à la fin du 19e siècle que finalement les enfants qui mouraient de la maladie hémolytique du nouveau-né passaient au milieu des autres enfants qui mouraient de toute une série de pathologies. Or, à partir de la fin du 19e siècle, le taux de mortalité infantile baisse de manière notable et tout d'un coup, on se met en fait à voir ces mortalités récurrentes dans les familles de manière beaucoup plus nette. Parallèlement, c'est aussi le moment où émerge la figure du médecin de famille, qui va donc voir passer finalement le premier enfant, les maladies et les décès successifs des enfants suivants dans une famille. On a donc là l'émergence d'une pathologie qui se manifeste de différentes manières, ce qui évidemment ne simplifie pas la tâche des médecins, puisque la maladie hémolytique du nouveau-né, c'est une maladie, mais trois manifestations différentes. Le fœtus se retrouve donc dans une situation où ses cellules sanguines sont détruites par les anticorps maternels, ce qui peut déboucher soit sur ce qu'on appelle un œdème généralisé du nouveau-né, un anasarque, qui en général provoque la mort avant même la naissance, autour de 7 mois de grossesse, soit sur ce qu'on appelle un ictère grave du nouveau-né, une jaunisse grave du nouveau-né, qui se déclenche quelques heures après la naissance et qui peut déboucher sur ce qu'on appelle l'ictère nucléaire et donc des séquelles neurologiques gravissimes et très souvent la mort, ou ce qu'on appelle l'anémie grave du nouveau-né, et donc là, un déficit en globules rouges qui là aussi peut déboucher sur le décès du nouveau-né.
Donc avant que cette pathologie ne soit vraiment reconnue et explorée, Nathalie Sage-Pranchère, on voit des enfants mourir, et qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on en dit?
Jusqu'à la fin du 19e siècle, il y a à la fois un sentiment d'impuissance, mais une volonté d'action. Et on va avoir des pratiques qui relèvent effectivement d'une forme d'imaginaire de l'analogie. Pour renforcer le sang du fœtus, on va vouloir renforcer le sang de la mère. Et donc on va vouloir renforcer les organes qui produisent le sang, en particulier le foie. Et comment renforce-t-on le foie maternel? En faisant manger à la mère du foie de veau tous les jours, foie de veau cru ou foie de veau cuit, pendant sa grossesse. Et tout ça est pris en relais par la pratique des injections et de la transfusion une fois que l'enfant est né. Donc, il y a une volonté d'agir pour sauver ses enfants, mais en même temps, et on le lit hein, dans les écrits des médecins, le désespoir de ces familles, il est terrible. On voit des femmes qui disent « mais si on me garantit pas qu'on sauve mon enfant, je veux pas le voir, je veux pas le voir vivant, parce que je vais encore le perdre ». Donc, cette maladie, elle fait des ravages, entre guillemets, même si elle est minoritaire en termes statistiques. C'est 0,5% des naissances. C'est pas considérable, mais c'est quand même autour de 8000 naissances par an. Et quand au sein d'une famille, à partir d'un moment, vous perdez tous les enfants que vous mettez au monde, les effets sont catastrophiques.
Alors la médecine ancienne, telle qu'elle est pratiquée à l'époque moderne, utilise une palette de thérapeutiques assez large. On ne se contente pas de purger et de saigner. Le régime alimentaire, par exemple, est quelque chose d'extrêmement important. Donc chez les femmes enceintes, on va plutôt recommander de ne pas boire trop de vin rouge, de ne pas manger trop de viande rouge, de ne pas manger trop rouge. On craint justement que la femme ne fabrique trop de sang alors qu'elle en a déjà assez en circulation. Et donc ces chirurgiens, les chirurgiens accoucheurs, ils vont effectivement, on le voit beaucoup, hein, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle, non seulement théoriser un petit peu la saignée, son recours, mais se disputer d'ailleurs aussi beaucoup sur est-ce qu'il faut le faire au début de la grossesse pour empêcher un avortement ou pas, juste avant l'accouchement pour le faciliter ou au contraire ça c'est un peu menaçant ou pas, sur des quantités qui restent en fait pas très importante. Antoine Petit, lui, dit qu'il ne faut pas aller jusqu'à plus de 10 onces par saignée pour une saignée de précaution, donc on est à 300 millilitres. C'est, voilà. Mais après, on a des exemples quand même dans la littérature et dans les écrits des chirurgiens où on a parfois des femmes qui ont été saignées des dizaines de fois, 40 fois parfois pendant des grossesses, et qui mènent leur enfant à terme. Et là, par contre, on s'interroge quand même sur le fait que ces femmes-là ont pu finalement là, avoir un peu du mérite à aller jusqu'au bout de leur grossesse. Mais globalement, ces saignées de précaution, elles ne prélèvent pas non plus une quantité de sang aussi considérable.
Toutes les femmes dans toutes les couches de la société?
Alors ces gestes de la saignée des femmes enceintes sont clairement plutôt réservés aux gens, aux femmes en tout cas, qui consultent les chirurgiens ou les médecins, à savoir une très faible proportion de la population. Pour avoir, moi, essayé de confronter un petit peu ces écrits théoriques des médecins avec des écrits de femmes, notamment des correspondances, des journaux, des mémoires, on se rend bien compte quand même que c'est une réelle pratique. Hein. On le trouve vraiment chez les femmes de la cour, voilà Marie-Antoinette qui raconte à sa mère, Marie-Thérèse, qu'elle va être saignée ou qu'elle a peur d'être saignée, mais que peut-être il va falloir le faire. Donc c'est clairement une pratique qui est différenciée et qui peut-être a pu d'ailleurs alimenter ce stéréotype des femmes des élites languissantes, qui ne pouvaient pas, pendant leur grossesse, faire tout ce qu'elles avaient à faire, parce que peut-être finalement aussi elles ont eu parfois des gestes qui les ont affaiblis davantage, comme celui de la saignée. Donc ça, c'est vraiment une pratique qui est pour le coup très socialement différenciée.
Alors que la femme du peuple qui continue à travailler au champ en étant enceinte est robuste par nature.
Mais il y a justement, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, cette idée que la femme du peuple qui travaille, elle élimine quelque part ce sang en trop par le travail qu'elle fait, par l'activité qu'elle a. Elle n'a pas besoin de se purger autant que les femmes des élites qui, elles, voilà, serrées dans leur corset, qui ne vont qu'au bal ou qui sont un peu alanguies toute la journée, elles souffrent davantage de pléthore que les femmes du peuple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit au XVIIIe siècle chez les médecins, cette idéalisation de la femme de la campagne, robuste, qui va au champ, qui accouche quasiment et revient avec l'enfant dans la brouette et puis après qui l'allaite, alors que la femme des élites, au contraire, voilà, qui spamme toute la journée et puis qui n'arrête même pas son enfant après, elle a des vrais problèmes de fluide, c'est-à-dire qu'elle va avoir des problèmes pendant sa grossesse et puis après l'accouchement, elle va continuer à avoir des fièvres, etc., tout un tas de problèmes qui sont liés à... Donc c'est une manière de critiquer, en fait. C'est souvent une manière de critiquer de manière très morale, on n'a rien à voir finalement là avec la science, mais c'est une manière de moraliser un peu le comportement des femmes et de leur impliquer ou leur indiquer certains comportements.
Quel genre de thérapies sanguines sont appliquées en cas de maladie hémolytique du nouveau-né, Nathalie Sage-Pranchère ? On transfuse les enfants ?
Alors, la pratique de l'hémothérapie pour soigner les nouveau-nés atteints généralement de jaunisse grave ou d'anémie, c'est une pratique qui, effectivement, est, du point de vue de la logique, évidente, puisque ces enfants ont un déficit de globules rouges, on leur en fournit. Le problème étant qu'on va encore à cette date-là aller au plus proche. Et de ce point de vue, c'est là aussi le décalage entre une région parisienne et des grands hôpitaux parisiens qui bénéficient de la mise en place de la transfusion sanguine d'urgence que nourrit finalement l'action d'Arnaud V, et la province ou les petits hôpitaux où là vous n'avez pas du tout de réserve de donneurs. Donc vous allez au plus près et vous allez transfuser du sang du père, ce qui ne va servir à rien puisque le père est rhésus positif, donc ces globules rouges vont continuer à être attaqués par les anticorps maternels présents dans la circulation sanguine de l'enfant, ou du sang de la mère, ce qui est encore pire puisqu'en fait on va renforcer finalement la présence des anticorps. Le coup de chance, c'est quand par bonheur la mère est trop faible ou le père n'est pas immédiatement accessible et que finalement on va recourir à quelqu'un d'extérieur qui, avec de la chance, sera pas immunisé. Cette compatibilité, elle ne va être véritablement comprise qu'à partir de la découverte à l'extrême fin des années 1930 aux États-Unis d'un nouveau groupe sanguin qu'on va appeler le rhésus. Alors le rhésus, tout simplement parce que on l'a identifié par comparaison avec les travaux sur le sérum et le sang d'un macaque qui s'appelle le macaque rhésus. À la fin des années 30, Karl Landsteiner, toujours lui, l'homme qui avait découvert les groupes sanguins au tout début du siècle, est installé aux États-Unis. Il travaille avec un autre médecin d'origine autrichienne, Alexander Wiener, et ils vont identifier tous les deux un autre élément, un autre groupe sanguin qui agglutine 85% des donneurs de sang ou des gens sur qui on fait les groupages, tandis que 25%, grosso modo, 15% pardon, de la population n'agglutine pas.
Qu'est-ce que ça veut dire agglutiner ?
Alors agglutiner, c'est quand au moment où vous mettez en contact du sérum sanguin et des cellules sanguines, les cellules sanguines se regroupent en petits caillots. Quand ça se regroupe en petits caillots, ça veut dire qu'il y a incompatibilité. Quand les cellules sanguines continuent à baigner tranquillement dans le sérum, de manière fluide, ça veut dire qu'il n'y a pas incompatibilité. Cette découverte-là, elle va être aussi approfondie par un autre élève de Landsteiner, qui s'appelle Philippe Levin, qui lui va se retrouver confronté à un cas d'une femme enceinte, dont l'enfant meurt à la naissance de ce qu'on appellera très vite ensuite la maladie hémolytique du nouveau-né, qui avait été transfusé, qui a fait une réaction à une transfusion, et il se dit, mais c'est... il y a quelque chose là qui relève peut-être de ce facteur découvert par Landsteiner et Wiener. Et Levine, de son côté, va découvrir ce mécanisme d'immunisation, et il va être celui qui va comprendre, en fait, que ce qui produit la maladie hémolytique du nouveau-né, c'est le rhésus, c'est l'incompatibilité rhésus. Et là, c'est un tournant extraordinaire. Parce que d'abord, on a enfin une réponse à ces différents syndromes qu'on avait réussi à regrouper, mais dont on ne comprenait pas véritablement l'origine. Ensuite, cette réponse, elle fournit une thérapeutique. La transfusion était bien la bonne réponse, mais pas n'importe laquelle. Fallait évidemment pas transfuser le sang de la mère, fallait pas transfuser le sang du père. Il fallait transfuser du sang rhésus négatif, non immunisé. Ce qui fait que le bébé, pendant le temps où on le transfuse, va changer de groupe pendant quelques temps. De rhésus positif, il devient rhésus négatif. Le temps que son corps élimine les anticorps maternels et se remette à produire du sang rhésus positif sans risque d'être attaqué.
Jacques Chiaroni.
Aujourd'hui, pour le rhésus, nous avons, il ne s'agit pas d'un vaccin, mais nous injectons des anticorps dirigés chez la maman rhésus négatif, enceinte d'un enfant rhésus positif. On va lui injecter des anticorps anti-rhésus pour détruire les globules rouges de l'enfant qui serait passé chez la maman pour éviter qu'elle ne s'immunise. Et on a la capacité aujourd'hui de décider, quand une maman est rhésus négatif, d'injecter ou pas ces immunoglobulines, car on a la capacité de génotyper le fœtus. C'est-à-dire que on ne va pas faire d'intervention traumatisante pour la maman, comme une amniocentèse par exemple, mais on est capable de déterminer le groupe sanguin fœtus en récupérant l'ADN fœtal qui flotte dans la circulation maternelle. Et si l'enfant est rhésus positif, on va injecter les immunoglobulines. Si l'enfant est rhésus négatif, on ne les injecte pas. Et ainsi de suite. Je vous parle du rhésus, mais je pourrais vous parler de plusieurs systèmes de groupes sanguins qui, la seule prévention n'existe que pour le rhésus. Mais il existe d'autres systèmes de groupes sanguins qui peuvent entraîner le même phénomène. Et dans ce contexte, au fil des grossesses, eh bien, une maman va s'immuniser vis-à-vis des différents antigènes de groupes sanguins de son enfant, vis-à-vis desquels elle a été en contact lors de ses grossesses, effectivement.
La découverte du rhésus, par ce qu'on comprend tout d'un coup de la possibilité de l'incompatibilité entre la mère et l'enfant, elle fait basculer la vision d'un couple mère-enfant forcément en harmonie. Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là où il y avait l'idée que tant que le fœtus était à l'intérieur du ventre de sa mère, il était protégé par sa mère, cette idée-là tout d'un coup bascule. La mère peut attaquer son propre enfant à l'intérieur même de son corps. Ça ouvre des perspectives totalement nouvelles, en fait, dans la compréhension, d'une part, des rapports entre mère et fœtus, d'autre part, dans la compréhension, en fait, de toute une série de pathologies. Évidemment, l'incompatibilité rhésus, c'est la plus fréquente, en fait, et c'est la plus dangereuse. Mais il y en a d'autres, et ça va ouvrir la voie à toute une série de découvertes d'autres groupes sanguins, et on se met à en découvrir à une vitesse phénoménale. C'est-à-dire que on en avait grosso modo 7 avant-guerre, aujourd'hui on en est à plus de 200. Donc il y a une multiplication des savoirs sur les groupes sanguins, une multiplication des savoirs sur les risques d'incompatibilité. C'est véritablement l'immunologie, en fait, qui se déploie à partir de cette découverte-là. Un élément qui est assez intéressant, c'est l'idée à partir de ce moment-là qu'il y a peut-être aussi des incompatibilités reposant sur le sang qui ne tuent pas l'enfant, mais empêchent tout simplement de le concevoir. Et que les stérilités inexpliquées viendraient en fait de ces incompatibilités entre conjoints. Et là, c'est un champ qui s'ouvre à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont on n'est pas encore totalement sorti. On n'a toujours pas tranché, mais au fond, le bouleversement intellectuel de la découverte de l'incompatibilité rhésus a été telle qu'on n'arrive pas à se déprendre de l'idée qu'il y a peut-être quand même quelque chose. Thierry Perrard.
Quand on parle de groupe sanguin, on pense souvent à des choses simples comme le A, le B, le AB, le O, le rhésus plus, qu'on appelle aujourd'hui RH, le rhésus moins, etc. Et en fait, la réalité est beaucoup plus complexe. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il y a un centre national de référence pour les groupes sanguins que j'ai la chance et le privilège de diriger. En fait, il existe 44 familles de groupes sanguins, qu'on appelle d'ailleurs des groupes sanguins tout court. Et au sein de chacun de ces groupes sanguins, qu'on appelle donc une famille ou un système de groupes sanguins, donc le système ABO, le système rhésus, il y en a beaucoup d'autres, donc on arrive à 44. Dans chacune de ces familles, il existe un plus ou moins grand nombre de marqueurs, donc d'antigènes.
Un antigène, pour parler de manière imagée, c'est une petite étiquette présente à la surface du globule rouge. Et cet antigène, s'il est étranger à l'organisme, peut engendrer des anticorps quand il est repéré par le système de défense de l'organisme, c'est-à-dire le système immunitaire, qui pourra alors attaquer et détruire la cellule porteuse de l'antigène.
Si on prend l'exemple du système rhésus, qui est très connu puisqu'on sait tous à peu près si on est rhésus plus ou rhésus moins, ça ne concerne que un marqueur. En fait, il existe 56 marqueurs uniquement dans ce système rhésus.
Qui sont par exemple, pour avoir une petite liste à la Perec.
Le premier marqueur, qui est donc ce qu'on appelle nous le rhésus plus ou le rhésus moins, c'est la lettre qui s'appelle grand D. D comme Denise. C'est un D majuscule. Derrière, vous avez la lettre grand C, grand E, petit C, petit E, etc. etc. Donc on arrive jusqu'au 56e. Ils sont tous liés entre eux parce qu'ils sont au sein d'une même famille, qu'on appelle la famille rhésus, qu'on appelle un système de groupe sanguin. Et donc il existe aujourd'hui 44 systèmes, ce qui représente au total 385 antigènes de groupe sanguin connus chez l'homme.
Souvent quand je vais dans des laboratoires, maintenant je précise que je suis drépanocytaire parce que j'ai fait l'erreur une fois en revenant en région parisienne, je suis allée faire une prise de sang et j'ai oublié de préciser au médecin que j'étais drépanocytaire. Et je me rappelle, du coup, je suis sortie, j'ai fait la prise de sang, je crois, le matin. L'après-midi même, il avait les résultats. Et d'un coup, je sors du travail, je vois, j'avais au moins 4-5 appels manqués. Le médecin était en panique. Il me laisse un message en me disant « Oui, madame Torquenou, j'ai vos résultats. Votre taux d'hémoglobine, il est vraiment très bas. Si vous entendez ce message, allez très vite aux urgences. » Et là, je me suis dit « Mince, le pauvre. » Et sachant qu'il était bas, oui, il était à 7 quelque chose. Mais enfin, il est dans la norme pour moi. Donc, je l'ai rappelé tout de suite pour lui expliquer la situation. Il m'a dit « Ah, d'accord, oui, je comprends mieux. » Du coup, maintenant, quand je vais dans un laboratoire qui n'est pas le mien, je leur précise tout de suite, mon hémoglobine, elle sera peut-être un peu basse, vous inquiétez pas, je ne voudrais pas me citer. Mon taux d'hémoglobine habituel, c'est ça. À chaque fois, ils me regardent et ils me disent, ah d'accord, oui, bah, on va le noter, hein, effectivement. Oui, notez-le, c'est mieux.
À quoi est-elle due, cette maladie?
Franchement, je ne saurais pas vous dire. Enfin, je sais que c'est une maladie du sang, mais j'ai appris il y a un certain temps par un laborantin, une fois quand je faisais une prise de sang, qu'apparemment ce serait une altération génétique qui se serait créée au niveau de l'Afrique et des Caraïbes et tout ça, pour apparemment protéger du palu. Donc, il s'avère que les drépanocytaires seraient amenés à avoir moins le palu. Mais bon, moi, je l'ai déjà eu, donc je ne saurais pas vous dire si ça fonctionne vraiment ou pas. Franchement, je ne sais pas du tout.
Vous avez
eu
le palu?
Ah oui, oui. Parce que moi-même, je suis originaire du coup d'Afrique de l'Ouest. Ma mère est béninoise et mon père est togolais. Et à l'époque, on y allait souvent pour les vacances quand j'étais plus jeune. On y a même vécu pendant 5 ans. Et oui, je crois que dans ma vie, j'ai déjà dû avoir... Enfin, en tout cas, quand j'étais plus jeune, j'ai dû avoir au moins 2 fois le palu en étant en Afrique.
Est-ce que les groupes sanguins évoluent et si oui, à quelle échelle, Thierry Perrard?
Les groupes sanguins, c'est de la génétique humaine. Donc, on hérite des marqueurs de groupes sanguins de ses parents, de son père et de sa mère. Donc, forcément, quand on parle de génétique, on parle aussi d'évolution génétique. Il y a ce qu'on appelle des mutations. C'est un processus naturel. Et donc, oui, les groupes sanguins peuvent évoluer. On parle de variants de groupes sanguins. On appelle ça des phénotypes, c'est-à-dire c'est ce que l'on observe sur le globule rouge. Certains phénotypes qui sont radicalement différents entre la population d'origine africaine, par exemple en Afrique subsaharienne, et la population originaire d'Europe. La population africaine étant la plus ancienne au niveau génétique. Et ce qui explique pourquoi on a une grande diversité génétique au sein du continent africain, et en particulier au niveau de la zone de l'Afrique équatoriale. En Afrique équatoriale, on retrouve un phénotype dans un système de groupes sanguins qui porte le nom particulier de Duffy. Eh bien, dans la population européenne, on a tous, à la surface du globule rouge, la présence des antigènes correspondant à ce système. Et quand on va dans le continent africain, et plus on se rapproche de l'équateur, plus on va avoir quelque chose de très singulier, on va retrouver de plus en plus de personnes qui n'ont pas du tout d'expression à la surface de leur globule rouge de ce système Duffy, de cette protéine Duffy, qu'on appelle donc un Duffy nul. Et c'est un facteur de protection très efficace contre l'une des formes de la malaria qu'on appelle le Plasmodium vivax. Et quand on superpose la carte de la fréquence de la drépanocytose, de la fréquence de la malaria, de la fréquence de ce phénotype particulier du finul, on aboutit à une quasi-superposition de ces cartes. C'est pour ça que tout ça est très intimement lié. Et quand on veut transfuser un patient qui souffre de drépanocytose en France, dans un certain nombre de cas, c'est pas toujours, mais on doit respecter en transfusion ce phénotype du finul. Et donc, on ne peut le retrouver que dans des populations de donneurs d'origine africaine. Et tout ça doit s'anticiper, se préparer, en particulier dans des campagnes de recrutement de donneurs de sang d'origine africaine.
Vous êtes directeur du département national de référence en immunohématologie et sang rare, Thierry Perard. Comment ça fonctionne, une banque de sang rare?
Alors effectivement, nous avons la chance en France, je tiens à le souligner, d'avoir une banque de sang rare, une banque nationale de sang rare. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et cette banque est sans aucun doute la plus riche et la plus diversifiée au monde. Elle contient à ce jour 8000 poches de sang congelées à moins 80 degrés, donc c'est une température qui est très basse, qui permet de le conserver pendant très longtemps, au minimum 30 ans. Avoir un groupe sanguin rare, ce n'est pas une maladie. C'est très important de le faire comprendre aux personnes concernées. Mais il est vrai que si vous avez besoin d'une transfusion sanguine, les choses se compliquent et doivent s'organiser.
Oui, parce qu'on pourrait être tenté de faire l'analogie peut-être un peu rapide entre rareté et solitude. C'est-à-dire on s'insère plus dans une lignée qui va nous soutenir, familiale, amicale. On est tout seul.
Oui, on a une perception très différente de cette rareté de la part des personnes concernées. Il y a tout un travail de pédagogie. Là, je viens de vous citer un exemple assez frappant de ce rhésus nul. Et nous connaissons un seul donneur de sang actif en France, qui est rhésus nul. Il y en a 10 à 15 qui sont actifs dans le monde. C'est exceptionnel. Et ce donneur, d'ailleurs, en l'occurrence, est originaire de Suisse. Il habite Lausanne. Et très, très aimablement, il traverse la frontière pour venir donner son sang en Haute-Savoie. Puisque, comme je le dis souvent, il est beaucoup plus facile d'importer le donneur que d'importer le sang. Ensuite, son don est acheminé à la banque de sang rare en région parisienne. Et on a eu l'occasion d'interviewer ce monsieur, qui est absolument adorable. Et ça n'a pas été facile pour lui d'ailleurs, puisqu'il a découvert qu'il avait ce groupe sanguin absolument exceptionnel aux alentours de l'âge de 10 ans, lors d'un bilan préhospitalier. Ce sont bien évidemment ses parents qui en ont été informés. Il a été sans doute surprotégé, ce qu'on peut comprendre, avec beaucoup d'inquiétudes sur le fait de pouvoir sortir, de partir en vacances avec des copains. Donc c'était compliqué pour lui à vivre. Et aujourd'hui, il le vit bien. Il en a parlé à son entourage, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Il est dans une dynamique aujourd'hui où il donne son sang régulièrement. On a fait appel à lui il n'y a pas très longtemps pour du sang qui était destiné à l'étranger. Mais c'est vrai que ça a été un parcours de vie sans doute un petit peu plus compliqué que la moyenne en raison de cette particularité.
1949, Lucien Febvre. Hier, aujourd'hui, demain, drame de tous les jours, maintenant. Un enfant naît dans une maternité, les médecins sont en alerte. Ils ont diagnostiqué, et parfois dès avant la naissance, une maladie redoutable, la maladie hémolytique des nouveau-nés. Tragique en ce que la mère risque de tuer son enfant. Entre leurs deux sangs, incompatibilité, bataille de globules. Ceux de l'enfant détruits par le sérum de la mère. Pas de temps à perdre, on saisit le nourrisson, on le vide de son sang, qu'on remplace naturellement au fur et à mesure par du sang emprunté. Au père, sans doute, ou à la mère? Non, l'issue serait fatale. À un donneur étranger, oui bien, dont le sang appartient à un groupe convenable. Et donc, suivant un procédé que nos transfuseurs qualifient d'élégant, on pénètre par la veine ombilicale du nourrisson dans sa veine cave et on pratique l'échange désiré. Une heure, vidée du sang malade, emplie d'un sang tout neuf, mais étranger. L'enfant vit, il vivra, et c'est une grande victoire. Oui, mais la voix du sang.
Savoir si l'exsanguino-transfusion, au fond, n'est pas une forme de bouleversement de l'identité de l'enfant au moment où il naît. C'est une question qu'on va retrouver chez un auteur, un historien, à la fin des années 40, qui s'appelle Lucien Febvre. Alors c'est une histoire assez originale et assez surprenante. Lucien Febvre est un grand historien qui a été un des refondateurs complets de la pratique de l'histoire en France avec Marc Bloch dans l'entre-deux-guerres.
Nathalie Sage-Prancher.
Il se marie dans les années 30, il a un fils, Henri, qui fait des études de médecine. Or, son fils fait sa thèse sur ce qu'on appelle les éléments figurés du sang. Et il fait sa thèse à Saint-Antoine, à la fin des années 40, auprès de Marcel Bessis, d'Arnaud Sank, de toutes ces grandes figures pionnières de la transfusion sanguine en France. Et donc, il assiste à des exsanguino-transfusions, quasiment quotidiennes en fait. Et quand il revient chez ses parents, il raconte à son père « C'est extraordinaire ce que j'ai vu, on renouvelle le sang des bébés ». Et Lucien Febvre, qui est un moderniste, donc qui a travaillé sur les 16e, 17e, 18e siècles, se dit « Mais comment ça, on renouvelle complètement ?» Et à la fin de 1949, il publie dans Les Annales, qui est la grande revue d'histoire extrêmement prestigieuse, un texte qui s'intitule « La voix du sang, fin d'une mystique », dans lequel il s'interroge en fait sur ce basculement anthropologique qui est de privilégier la survie à l'identité.
Je reviens au sang. Le sang, la liqueur mystique par excellence. La voix du sang, oui, mais le baptême du sang, la pureté du sang, la composition du sang. Nous voici maîtres des techniques de la transfusion, ou du moins sur la voie de la pleine maîtrise. Bientôt, les hommes, les femmes ne se compteront plus dans les veines de qui aura coulé un sang étranger. Dirons-nous, c'est la fin de cette mystique de la race qui trouvait dans la mystique du sang un tel support? Car enfin, le sang, ce tissu fluide et mobile qui porte l'oxygène aux autres tissus, le sang, ce convoyeur d'acide carbonique, le sang dans lequel les glandes endocrines déversent leurs sécrétions et le système digestif les produits de son travail. Le sang qui charrie les intoxications et les infections comme les nourritures salutaires et les antitoxines. Le sang, cet univers, mais un univers terriblement individuel, un des éléments de notre personnalité physique et aussi peut-être de notre personnalité héréditaire. Alors l'homme qui dans ses veines reçoit le sang d'un inconnu. Alors le nourrisson vidé de son sang familial. Aucun trouble, aucune rupture dans sa vie psychologique et morale, Je sais bien, les organes fabricateurs de sang ne cessent pas leur continuel travail. Ils ne cessent de produire un sang qu'il faut bien appeler personnel et qui remplace rapidement le sang emprunté au donneur. Celui-ci n'assure qu'un intérim. Mais enfin, tout cela demeure encore très obscur.
Il poursuit sur l'interrogation de ces rois de France, dont la légitimité passait par ce sang royal transmis de génération en génération, dans ce qu'on a appelé cette espèce de miracle capétien qui ferait que de Hugues Capet jusqu'à Louis XVI, il y aurait eu une continuité dynastique absolue. Et il se dit, mais aurait-ce été envisageable de remplacer du sang royal par du sang de roturier? Ce qu'on fait aujourd'hui au nom de la vie biologique et de la survie, est-ce que ça n'est pas finalement une rupture absolue avec une pensée de la continuité, une pensée de la légitimité filiale, dynastique, humaine, qui prévalait dans nos sociétés du passé? Est-ce que véritablement ce sang comme synonyme, comme équivalence de la filiation, de ce qu'on appellerait la génétique aujourd'hui, a été si central que ça? Lui, il répond oui. Lucien Febvre dit oui, le sang était central. Et quand on étudie les sociétés du passé, on peut effectivement répondre tout à fait oui, en voyant la place au Moyen-Âge des bâtards, qui, parce qu'ils sont bâtards de grande famille, restent des figures essentielles, sont conservés, à qui on donne une place. Louis XIV essaie de légitimer ces bâtards et de les placer dans la succession au trône, il privilégie le sang biologique, familial, personnel, sur le sang d'une certaine manière qui serait celui de la dynastie. Mais on s'aperçoit au fond que c'est le sang symbolique qui gagne, puisque on casse le testament personnel de Louis XIV qui disait « ils sont de mon sang » pour lui répondre « mais ils ne sont pas du sang de la dynastie ». Donc tout ça est très compliqué finalement, et la biologie nous oblige à regarder l'éventail des symboliques du sang dans le passé. Il n'y a pas qu'un seul sang. Il est assez fascinant de voir que le sang biologique n'était pas forcément toujours central et qu'il y avait des accommodements déjà dans le passé. La dynastie aurait sans doute pu se relever du sang d'un roturier parce qu'on aurait trouvé des aménagements. Et que c'est peut-être aussi notre société contemporaine, par tout ce qu'elle sait du biologique, qui lui accorde de ce fait autant d'importance. Il est assez frappant que aujourd'hui, par exemple, quand dans un parcours d'assistance médicale à la procréation, un couple se retrouve dans la situation, il fait appel à une donneuse ou à un donneur de gamètes, on choisisse de créer un appariement, donc une équivalence entre le groupe sanguin de la donneuse et de la receveuse, ou du donneur et du receveur. Alors, est-ce qu'il y aurait un besoin, en fait, concret, matériel, qui ait une équivalence sanguine? En fait, pas du tout. Il n'y a pas besoin qu'il y ait le même groupe sanguin pour le donneur ou la donneuse et le couple qui reçoit. Mais simplement, on crée une fiction biologique pour que l'enfant qui ira plus tard à l'école et qui, en cours de biologie, apprendra la transmission mendélienne des caractères génétiques et donc prendra l'exemple des groupes sanguins, ne se dise pas « mais au fond, mon groupe sanguin ne colle pas ». Et donc, on s'accroche à cette fiction, on crée une fiction biologique. Et ça, c'est un choix des médecins, c'est un choix social qui accorde à la biologie une place centrale dans la construction d'une famille qui, par définition, ne fonctionne pas sur du biologique, mais sur bien autre chose.
Emmanuel Berthiaud.
Mais c'est compliqué de savoir justement comment on percevait autrefois le rôle du père, et c'est bien ce qu'explique un petit peu Françoise Héritier, et on le voit bien d'autres anthropologues, même au moment de la fécondation, quelle est la part de l'homme, quelle est la part de la femme. On a longtemps attribué plutôt le principe matériel, le sang, mais qui nourrit à la mère, et le père était, par son sperme, celui qui apportait le souffle vital. Mais il y a quand même cette idée que c'est pas forcément par le sang, mais par exemple par les relations sexuelles pendant la grossesse, le père va continuer à alimenter, d'une certaine manière, à faire grandir le fœtus par le sperme. Voilà. Mais pour le coup, c'est après la mère, quelque part, qui est responsable quand même de son fruit. Et c'est ce qui explique effectivement la multiplicité des recommandations concernant les femmes pendant leur grossesse. C'est elles qui sont quand même jugées un petit peu responsables après de leur malformation, de leurs problèmes de santé. Et avec cette chose aussi que je trouve intéressante, qui montre bien quand même que le sang de la mère, on s'inquiète toujours quand même de sa qualité pendant la grossesse, c'est qu'on avait peur, principalement à l'époque moderne jusqu'au milieu 19e siècle, qu'il soit en quantité trop importante. Mais c'est quand même quand on va commencer à faire des analyses de sang au milieu du 19e siècle, à analyser la fibrine, les plaquettes, etc., que les médecins vont se rendre compte que ce sang des femmes enceintes qu'on imaginait trop riche, en réalité, il est plutôt souvent trop pauvre. On va se rendre compte que parfois, les femmes, elles manquent de fer. Et donc là, d'un coup, il va y avoir un espèce de renversement, mais quelque part, qui montre bien qu'on focalise toujours sur le sang, quand même, pendant la grossesse. Cette idée que la femme enceinte, elle serait comme les fameuses jeunes filles qui souffrent de chlorose, en fait, au 19e siècle, cette maladie des pâles couleurs qui fait qu'elles sont complètement anémiées. Et bien, la femme enceinte, en fait, c'est une chlorotique. Ça devient la nouvelle marotte des médecins, après avoir été pléthorique, c'est-à-dire pleine de liquide, finalement, elle a un sang trop pauvre. Et donc, ça justifie, là aussi, de la placer toujours un peu sous contrôle, de faire attention à ce qu'elle mange. Mais on a complètement, finalement, changé de discours, tout en focalisant quand même sur le sang. Et encore aujourd'hui, on continue de faire beaucoup d'analyses de sang pendant la grossesse. Et je pense qu'il y a quand même des continuités intéressantes. En fait, les schémas explicatifs changent, mais la focalisation, quand même, sur le sang, elle reste là. Et donc ça, ça me paraît quand même assez intéressant pour éclairer les représentations sur la longue durée.
Merci à Emmanuel Berthiaud, Jacques Chiaroni, Mélinda Dorquenou, Thierry Perard, Nathalie Sage-Pranchère et Jean-Baptiste Thibert. Merci également à Charlet Dubois et Géraldine Mallard pour leur aide. Documentation, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Carvran. Prise de son, Nicolas Mathias et Florent Bujon. Mixage, Hervé Dubreuil. Le sang de la veine. Troisième épisode, Hériter, transmettre. Un documentaire de Marie Chartron, réalisé par Anne Fleury pour la série documentaire.